Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Il est 9h09, Sonia De Villers, votre invitée ce matin est phoniatre.
Mais quelle drôle de spécialité en médecine. Bonjour docteur, bonjour Jean Habitbol.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur France Inter. On veut tout savoir. Qu'est-ce que c'est que la phonation ?
Alors, la phonation, c'est tout simplement une expression qui est d'abord une mécanique. Mm-hmm. La respiration qui donne le pouvoir, entre guillemets, la puissance de votre voix. Les cordes vocales, on n'en a que deux, on n'en a pas 52, on a deux cordes vocales qui sont à l'horizontale, juste au-dessus de la trachée, qui vont vibrer. Donc c'est le vibrateur, et puis la caisse de résonance qui va donner justement le timbre de votre voix. Si je vous dis bonjour, et je vous dis bonjour, je viens de me pincer le nez, bah, j'ai les mêmes cordes vocales, j'ai le même poumon, mais j'ai pas la même résonance au niveau de la voix.
Parlons de ces athlètes de la voix, 400 muscles, 400 muscles mobilisés pour parler.
Oui, alors parce que au moment de la respiration, ben vous allez activer vos muscles respiratoires, et puis pour les chanteurs ou les professionnels de la voix que vous êtes, vous allez également agir sur les muscles qu'on appelle du pelvien, c'est-à-dire du bas-ventre. Et puis toute la face, les muscles de du visage, les muscles de la langue, les muscles des lèvres, tout ça se met en route dans une synchronisation absolument incroyable au niveau du cerveau, qui va être la mécanique. Mais à côté de cela, il y a quelque chose de superbe. C'est quand vous parlez, vous allez faire travailler également vos émotions. Et l'émotion là, ça va être votre cerveau droit, votre cerveau gauche, qui vont quelque part se mettre ensemble pour créer l'authenticité de votre voix, la vérité de votre voix. Et quand vous truquez, ben un ami, si vous dites « Allô, comment tu vas ?»« Ben, je vais bien », vous dites « Non, j'entends que tu vas pas bien. Mmh. » Pourtant, c'est la même voix.
Je vous préviens, c'est pas Johnny Hallyday.
Alors, ça,
c'est Michael Gregorio. Ouais,
alors, Michael Gregorio, c'est un imitateur exceptionnel. Mmh. Laurent Gérard également, et bien d'autres.
Mais
Michael Gregorio, lui, c'est hyper spécialisé dans la voix chantée. Mmh. Et il prend les mimiques de l'imité, le visage qui va se transformer légèrement. Et il a, comme beaucoup d'imitateurs, près dans 95% des cas d'ailleurs, des cordes vocales asymétriques. C'est-à-dire qu'il peut truquer, c'est un véritable artiste des artistes, mais c'est également ce qu'on appelle un acrobate du larynx. C'est-à-dire qu'il va tourner, truquer son larynx pour pouvoir imiter.
Sauf que tout acrobate du larynx qu'il est, puisque j'ai lu votre dernier ouvrage, docteur, Les voix de notre vie qui paraît chez Grasset, il n'y a pas d'imitation totale.
Exactement.
C'est trop complexe.
C'est trop complexe, et heureusement, chacun, on est 8 milliards d'individus, 8 milliards de voix différentes. Mais toutes ces voix en question ont une force extraordinaire, cette force universelle qui est la spiritualité. C'est-à-dire que la voix n'existe qu'à partir du moment où vous la sentez, où vous parlez avec vous-même. Mais ça veut dire quoi, parler avec soi-même ? Ça veut dire se respecter soi-même, respecter les autres. Et très souvent, ceci, on l'oublie. Cette parole avec soi-même que les grands sportifs font, notamment Roland Garros, eh bien, c'est « oui, je vais gagner, oui, j'y vais », mais ils se parlent à eux-mêmes. C'est une force et un pouvoir intérieur formidable, presque plus qu'un pouvoir extérieur.
Dans cet ouvrage, un petit peu plus personnel que vos précédents, docteur Habitbol, vous racontez vos débuts. On vous connaît comme médecin de star. Vous avez soigné la voix de président de la République. Vous avez soigné la voix de star mondiale de la chanson, de grands acteurs et de grandes actrices. Oui. Vous avez aussi soigné la voix de professeurs et d'enseignants qui n'arrivaient plus à parler à leur classe. Vous étiez au départ médecin de campagne, et c'est par la voix que vous preniez le pouls de vos patients.
Absolument. C'est-à-dire, je prends le pouls de la voix, comme je dis, comme le vulcanologue prend celui de la terre. Oui. C'est-à-dire que quand j'entends quelqu'un, immédiatement quelques secondes, j'arrive à savoir s'il y a une sincérité, s'il y a un problème de burn-out, s'il y a un problème de dépression, immédiatement. Mais effectivement, quand j'étais interne des hôpitaux, puis plus tard chef de clinique, eh bien, pendant les vacances, pendant les week-ends, pour gagner ma vie, ben, j'ai été médecin de campagne à côté de Provins en Seine-et-Marne. Et c'est une expérience extraordinaire. Parce qu'un an et demi après d'être médecin de campagne, où je connais déjà les gens, on m'appelle vers 4h du matin, un soir de Noël, et « Allô ? Oui ?» Oui, écoutez docteur, ma fille va pas bien. Je dis parfait, ne vous inquiétez pas, allumez le feu de cheminée, vous la mettez au chaud et j'arrive. Et je raccroche. Et ma femme me dit, mais t'as même pas entendu l'adresse ni rien. Ben non, la voix était le GPS. Je savais par la voix du père où était cette maison. Elle était à Donne-Marie-Nantilly, donc je savais parfaitement quelle était l'adresse.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire une sorte de cartographie des
Absolument.
Voix de vos...
La voix est un GPS, c'est un GPS émotionnel, mais c'est un GPS également
Mais d'ailleurs, dans toute votre carrière, il y a quelque chose que vous garderez de cette expérience originelle et matricielle, c'est qu'au fond, on ne soigne pas une voix.
Non.
On soigne
Absolument.
Un homme, on
Absolument.
Soigne une femme, on soigne un enfant,
Tout
on soigne
fait.
Un
C'est-à-dire
être humain.
C'est-à-dire que c'est être très réducteur d'un médecin de dire « je soigne la maladie », ça ne veut pas dire grand-chose. On soigne un malade, et la maladie en fait partie. Mais la maladie n'est que rapportée au malade en question. On ne soigne pas tout le monde, comme dans les livres. C'est pas un Google. Docteur Google va soigner quelque chose de mécanique. Mais heureusement, la voix, quand on, moi j'opère beaucoup de cordes vocales. Mais on n'opère pas une corde vocale comme on opère une appendicite. Opérer une voix, c'est une chirurgie émotionnelle. On change la personnalité.
Vous avez eu des acteurs atteints de cancer, par exemple, dont évidemment, vous masquez les noms, secret médical oblige, mais qui vous ont appelé en larmes. En vous disant, on nous propose une opération.
Oui.
Perdre ma voix, c'est perdre ma vie.
Tout à fait. Et une expérience extraordinaire que je raconte d'ailleurs dans le livre, si vous voulez, c'est un comédien qui vient me voir qui a un cancer au niveau de la corde vocale, qui a été terrible. Et je l'envoie à un de mes collègues, tout simplement parce que c'était le fils d'un de mes amis qui était gynécologue. Il le voit, il dit, ben écoutez monsieur, c'est simple, ben il faut enlever votre larynx. Il me dit, quoi ? Mais il faut enlever votre larynx. Ben non. Il m'appelle, il devait être 9h du soir, il avait mon téléphone personnel, il me dit, écoutez, Jean, il y a un truc qui colle pas, là, je suis au bord de la Seine, qu'est-ce que je fais ? Je dis, comment, qu'est-ce que tu fais ? Tu viens, on prend un café. On prend un café ensemble, et je dis, écoute, on va trouver une autre solution. La chance a voulu qu'avec la chirurgie laser et la radiothérapie, on l'a guéri. Et puis je lui dis, mais t'inquiète pas, tu feras peut-être la voix de François Mauriac plus tard. Et quelques mois, il y a quelques années maintenant, où on lui a proposé ce rôle.
Et
il m'a
appelé en disant, qu'est-ce qu'elle avait, la voix de François Mauriac ?
Ben, c'est une voix un peu comme
ça.
Il était complètement cassé. Donc, ça a changé sa personnalité, mais ça a changé ses rôles. Et ça a changé, non pas sa vie, comme vous disiez très bien, sa vie, c'est sa voix. Mais on voit ça chez les enseignants, chez les enseignantes. Une institutrice de l'école maternelle, comme on disait, elle a une voix chantée, elle a une voix parlée, mais elle va donner cette influence, la force du professeur de faculté, la force de l'enseignant dans l'école primaire. Il va vous donner envie, ou au lycée, il va vous donner envie d'une carrière. Il est sur une scène, si vous l'idéalisez, sa voix va vous transporter, sa voix va vous, quelque part, hypnotiser, et dire oui, j'aimerais bien être comme lui, mais c'est la voix qui vous a dirigé.
Et vous racontez le moment où on perd sa voix et où on perd la voix.
Oui.
C'est-à-dire, vous racontez une grande chanteuse qui s'écroule, vous êtes appelée à son chevet. Elle n'a plus de voix.
Oui.
Et vous racontez le bras de fer avec son manager, à qui vous dites, attention, elle n'est pas qu'une voix.
Exactement. Ce qui est terrible dans ce métier, on le voit avec Tina Turner qui nous a quittés, c'est qu'elle était un objet voix. Un objet voix qu'on manipulait, qu'on allait quelque part lui dire, bah là il faut que tu chantes. Oui non mais je peux. Non mais
donc
il faut y aller.
Et c'était soit Ike Turner son mari, soit Phil Spector son manager,
Tout
mais on avait fait d'elle un produit.
Un produit. Et ce produit devait créer une émotion. C'est comme si vous disiez, je vais acheter quelque chose et je veux une émotion dans ce vous pouvez pas. C'est pas possible. Et en fait, lorsqu'elle met ses émotions, et c'est ça qui est beau, c'est qu'elle combat l'autre en disant « je suis pas qu'une voix, je suis aussi une femme », et on voit ça chez la femme, parce que la femme est protectrice, la femme est maternelle, la femme est quelque chose qui va rassembler, et quelque chose qui a beaucoup plus que l'homme, désolé messieurs, mais beaucoup plus que l'homme, elle a une intuition émotionnelle impressionnante, et cette intuition émotionnelle passe dans sa voix.
Et cette chanteuse au chevet de laquelle vous êtes appelée parce qu'elle perd sa voix, c'est Céline Dion ?
Ça, je peux pas vous dire. Parce qu'il y en a, j'en ai soigné beaucoup. Mais je peux pas vous dire. Ce serait pas bien. Mais ce qui est vrai, c'est que chez les chanteuses, notamment, et on trouve ça aussi, paradoxalement. Vous allez dire, ah bon, comment? Ben oui, chez les avocates. Chez les avocats. Et une très belle histoire que je raconte.
Mais d'ailleurs,
souvent,
on les appelle les ténors du barreau.
Exactement.
Mais moi, c'est en lisant votre livre que j'ai compris pourquoi on les appelle les ténors du barreau.
Même les femmes. Même les femmes, qui sont des sopranos du bureau, mais la voix grave est indispensable pour donner du charme. C'est pour ça qu'une belle voix de femme, c'est une voix qui a des aigus, comme la vôtre, mais où on entend, dans votre voix par exemple, tous les graves qui sont derrière, qui vont donner le relief de votre voix. Ce qui est beau entre le blanc et le noir, c'est le relief. C'est pas une voix pure. C'est pas beau une voix pure. Ce qui est beau, c'est l'imperfection de la voix. C'est ça qui nous charme.
Évidemment, on va écouter Tina Turner, évidemment, dans sa période dorée, les années 60. Mon invité s'appelle le docteur Jean Habitbol, il est phoniatre. Je ne sais pas si vous avez déjà consulté un phoniatre, mais Emmanuel Macron, probablement, et le général de Gaulle aussi. On va parler politique. Tina Turner est morte hier, il nous reste sa voix. Nutbush City Limits, c'était cette chanson historique. Avec les amitiés de toute l'équipe, Anaïs Reinhardt à la réalisation, Redouane Tella, Grégoire Nicolet, Elisabeth Rouvet et DJ Audibert.
France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers.
Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République!
Là, hein, comme ça, ça fait vraiment... Oui. Très, très mal aux oreilles.
Alors, oui, alors là.
Docteur Jean Habitbol est phoniatre, mon invité du jour, auteur de Les voix de notre vie chez Grasset.
Alors, ce qu'on entend là, c'est qu'il incarne ce qu'il veut être. Il est complètement habité par le désir de pouvoir servir. Mais ce qui est.
C'est
incroyable,
Emmanuel Macron en
oui,
campagne.
Emmanuel
en
Macron, tout à fait. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il est au milieu, on pourrait presque dire d'un ring. Au milieu de ces gens-là, il est transporté, il est pratiquement habité par une voix. Mais écoutez bien ce qu'il a dit, il n'a pas dit c'est mon projet, il a dit c'est notre projet. Mmh. Ce qui fait qu'il incorpore le collectif à lui-même. Et là, il idéalise quelque chose de magnifique, il est jeune, il emporte, on y va. On y va parce que...
Sauf que sa voix ne le suit pas, docteur.
Il est dépassé par ce qu'il veut dire. Sa voix va au-delà de ce qu'il veut. Et après, ben, il va la dompter. Et puis, il va apprendre comme...
Il a travaillé depuis,
bien sûr.
Avec vous?
Non, pas avec moi. Il l'a travaillé depuis, bien sûr. Et puis, il a su la poser. Il a su mettre des silences, comme a fait le président François Mitterrand, qui, en début de carrière, était extrêmement rapide dans tout ce qu'il disait. Et puis, petit à petit, a géré les silences entre les différentes apparitions télévisées.
Sur les conseils de Jacques Pilon, qui a été un des maîtres de la communication politique contemporaine, qui lui a appris justement à ralentir, vous le racontez. Et vous racontez aussi que l'entourage de François Mitterrand vous contacte en 1992 et que le président a presque perdu sa voix.
Oui.
J'imagine qu'en 92, il est déjà très atteint
par le cancer. Absolument, ouais. Il était déjà très fatigué à ce moment-là. Et effectivement, j'ai juste amené un petit plus pour qu'il puisse faire cet entretien et cette interview qui était avec Guillaume Durand, qui était à l'époque qui était fondamental. Et ce petit coup de pouce lui a permis de dire d'une façon totalement positive et de rassurer, parce qu'une voix qui va vous parler comme ça, eh ben, elle ne rassure pas.
Non.
On va penser à la maladie qui est derrière, mais pas au message qu'on veut donner. La voix, quelque part, si elle n'est pas authentique, si elle n'est pas sincère, si elle n'est pas complètement vous-même, elle vous trahit dans la bonne santé, elle vous trahit dans la maladie.
Le général de Gaulle, en 1968.
Françaises, Français, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale.
Je ne changerai pas. Oui. Je ne me retirerai pas.
Voilà. Alors c'est un rythme vocal, car la voix c'est une musicalité, c'est un rythme. C'est les mots qui vont habiter cette voix quelque part, qui vont être le véhicule du message que vous voulez donner. Mais le général était absolument incroyable. C'est ce que m'a raconté l'amiral de Gaulle.
Alors l'amiral de Gaulle, c'est son fils qui est aujourd'hui centenaire.
Absolument. Et qui m'avait raconté cette histoire où, pour qu'il ait cette voix de tribun, il a été écouter Jean Jaurès à Lille une fois par semaine pour essayer de parler avec cette voix de tribun. Parce qu'à l'époque, les micros, c'était pas nécessaire. On avait une voix qui devait porter et c'est cette voix des tribuns qu'il avait et qu'on connaît également entre là, Jean Moulin.
Jean Jaurès, dites-vous, qui restera une référence tout au long du XXe siècle,
oui,
pour la rhétorique politique.
Oui, absolument. Jean Jaurès restera et le général a été celui qui l'a le mieux, entre guillemets,
parce que vous, vous dites que le général jeune n'a pas du tout la même voix.
Ben, c'est pas moi, c'est l'amiral qui m'a dit, qui me dit que sa voix était un peu trop aiguë, qu'elle était un peu trop... Et pendant des heures, il répétait à la maison des discours, comme il s'était un homme extrêmement cultivé, il lisait des textes pour imiter quelque part cette voix grave en ayant sa propre personnalité. Il n'imitait pas le style, mais il imitait le timbre de la voix.
Sœur Marie Kérouze. Je l'ai dit, docteur, ce livre, Les voix de notre vie, est un écrit plus personnel que les précédents.
Oui,
il y a de longues pages dédiées à la voix de la mère entendue in utero. Vous le dites, le fœtus n'entend pas, il perçoit. Mmh. Vous dites que la voix de la mère et les voix perçues pendant la grossesse ont une influence immense sur le développement du cerveau.
Tout à fait. C'est-à-dire que, effectivement, un enfant in utero, et ce petit homme qui est dans le ventre de sa maman, dès l'âge de 3 mois, commence à entendre. À 6 mois, il intègre. Et si on voit des femmes très heureuses qui écoutent de la musique, qui sont contentes et qui sont, eux, en plein bonheur, l'enfant va développer la zone du langage, on voit sur l'IRM fonctionnel, d'une façon beaucoup plus rapide qu'un enfant, qu'un fœtus qui va être pris par une maman dépressive ou complètement laissé aller.
Et le fameux enfant de l'Aveyron, cet enfant sauvage de l'Aveyron,
absolument,
dont Truffaut avait fait un film, qui avait grandi en entendant si peu de voix humaines, n'a jamais pu développer les fonctions du
absolument
langage,
et
cette partie du cerveau.
Exactement. Et c'est l'expérience que je raconte. C'est Frédéric II au XIIIe siècle. C'est incroyable. Il a pris des tout petits entre l'âge de 1 jour et l'âge de 3 mois, qu'il a isolés. Et il les a fait, entre guillemets, il y avait des nurses qui leur donnaient à manger. Rien d'autre. Et il leur a demandé, À 4 ans, maintenant, vous allez parler. Alors, vous allez parler quoi? Araméen? Vous allez parler latin, français, germanique? Eh bien, ils ne parlaient pas. Et ils sont tous morts débiles profonds à l'âge de 12 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la voix, et on le voit dans le livre, la voix, c'est, on commence avec, on va dans le ventre de sa maman l'écouter, mais on va dans les voix des disparus. C'est quelque chose qui, ce qu'on a aimé quand on entend leur voix. C'est extraordinaire. Si vous voyez une photo, vous la regardez, vous avez une certaine émotion. C'est le regard, elle est statique. Mais lorsque vous avez une vibration, quand vous entendez la voix de quelqu'un que vous avez aimé, qui est parti, un ami, un parent, une sœur, un frère, peu importe, eh bien, c'est une véritable machine à remonter le temps. Elle vous remet dans la situation où vous étiez il y a quelques années. Et là, vous avez la larme à l'œil.
Au commencement était le Verbe.
Oui.
C'est la première phrase de l'évangile selon saint Matthieu.
Saint Jean.
Et au commencement était le Verbe.
Tout à fait.
Donc, c'est le début de la Bible.
Alors, exactement. Du Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, pareil. Dans l'Ancien Testament, pas. Parce que, en fait, le mot voix, dans l'écriture hébraïque, ça veut dire le singe qui va devenir un homme. C'est incroyable quand on voit les trois lettres en hébreu de cela. Eh bien, ce qui est formidable, c'est que la voix existe, mais avec la spiritualité. Sans voix, il n'y a pas de religion. Sans religion, il n'y a pas de voix. La voix est le transport de votre imaginaire. Elle va vous emmener dans un monde qui n'est pas le monde concret, mais qui est un monde impalpable, qui est le monde de la vibration.
Merci docteur. Les voix de notre vie paraissent chez Grasset. Jean Habitbol était mon invité.